Vous écoutez, on lit pour vous.
Logement social et logement abordable. Quelle est la différence? Un texte de Jasper Bléau-Levaché, paru le 4 septembre 2025 dans le magazine Pivot. Les termes logement social et logement abordable sont souvent utilisés dans les annonces de nouveaux projets immobiliers. S'ils semblent interchangeables, ils décrivent deux réalités différentes. Tous les logements sociaux sont abordables, mais l'inverse n'est pas vrai, selon Sébastien Laure, professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. L'expert explique que le logement social désigne traditionnellement des unités dont les locataires reçoivent de l'aide de l'État. Citation : Ça peut être du logement construit par l'État qui appartient à une municipalité. Par exemple, un office d'habitation municipale en aura, explique-t-il. Mais l'aide de l'État peut aussi aller à des gens qui habitent un logement dans le marché privé. Fin de citation. Sébastien Laure ajoute que des coopératives d'habitation et des organismes à but non lucratif, OBNL, peuvent aussi offrir du logement social. Autre caractéristique importante, le montant du loyer d'un logement social est déterminé selon les revenus des locataires, selon le professeur. Par exemple, le loyer des locataires de la place Tenakwip à la Chine est limité à 25 % de leurs revenus mensuels. C'est habituellement différent dans le cas du logement abordable, dont le loyer doit plutôt être plus bas que le loyer médian du secteur, selon Sébastien Laure. L'abordabilité est donc relative au prix du marché de l'habitation sur un territoire donné. Citation : Abordable à Montréal, à Québec ou en Gaspésie, on s'entend pour dire que ce ne sera pas le même prix. Fin de citation, dit le chercheur. De plus, les projets de logements abordables ne sont pas toujours permanents, indique l'expert. Par exemple, le programme d'habitation abordable Québec, PHAQ, offre des subventions aux projets pour ménages à revenus faibles ou modestes, selon son site Web. Mais un décret datant du 7 mai 2025 précise que les projets subventionnés par le PHAQ doivent garantir l'abordabilité de leur logement pour une période limitée à 35 ans. Citation : Au-delà de cette période, l'abordabilité du logement n'est plus nécessairement protégée. Fin de citation, explique le professeur Laure. Des définitions différentes. Pour la Société d'habitation du Québec, SHQ, un logement est abordable si le ménage consacre moins de 30 % de son revenu total avant impôt aux frais de logement, selon un document de la Société. Selon cette définition, le seul moyen de l'abordabilité pour les particuliers de 16 ans et plus est donc de 1 367,50 $ par mois en frais de logement. En effet, le revenu moyen total avant impôt des particuliers québécois est de 54 700 $ par an, selon des données de 2022 de l'Institut de la statistique du Québec. Mais cette définition ne fait pas l'unanimité. La Ville de Montréal, questionnée sur ce que signifie l'abordabilité en matière de logement, n'a fourni aucun chiffre ou formule de calcul dans sa réponse par courriel à Nouvelle d'ici. Citation : La réponse varie nécessairement selon les besoins et les revenus des personnes. Fin de citation, souligne Camille Bégin, relationniste à la Ville. Elle explique que la Ville divise les locataires en quintiles selon leurs revenus. Le premier quintile correspondant par exemple aux personnes à faible revenu. La Ville détermine ensuite comment aider ses locataires en fonction de leur quintile. Élisabeth Tremblay, porte-parole de la Société d'habitation et de développement de Montréal, SHDM, indique quant à elle que, citation, « l'abordabilité est définie en fonction du parc existant de la SHDM ». Fin de citation. Le loyer moyen de l'ensemble des logements abordables de la société ne dépassera pas, citation, « le seuil de 80 % du loyer médian calculé par la SCHL », Société canadienne d'hypothèques et de logements, selon chaque arrondissement. Fin de citation. Les loyers des unités de logement social sont, eux, financés par le programme de supplément au loyer provincial. Crise du logement. Pour le professeur Sébastien Laure, le Québec manque clairement de logements sociaux, mais aussi de logements locatifs de manière générale. Citation : Pendant des années, on n'a pas construit de logements locatifs. On ne construisait que des condos, affirme-t-il. Notre problème actuel, c'est qu'on a un déficit dans tous les segments du marché, sauf peut-être celui du luxe. Fin de citation. Selon le professeur de l'Université de Montréal, c'est ce manque de planification qui a mené à la crise du logement actuel. Citation : On a laissé aller le marché, mais le marché ne construit pas nécessairement selon les besoins de la population. Fin de citation, soutient-il. Et en chiffres, voyons à quoi peut ressembler concrètement un loyer abordable selon les critères de la Société d'habitation de Montréal. Le loyer médian à Montréal pour un studio est de 910 $ selon les statistiques de la SHQ qui s'est basée sur les données de la SCHL. Il s'élève à 1095 $ et 1175 $ respectivement pour des logements d'une et deux chambres. Nouvelle d'ici n'a pu localiser les données du loyer médian à Verdun. Son loyer moyen, cependant, est de 800 $ pour un studio, selon des statistiques de 2023 de la SCHL. Il est respectivement de 952 $ et 938 $ pour des logements d'une ou deux chambres, quoique la SCHL précise que ces données peuvent ne pas être fiables. Les loyers moyens et médians sont des concepts différents. Cependant, Nouvelle d'ici a quand même voulu faire le calcul des prix potentiels de logements abordables. Le but est de donner un ordre d'idée de ce que représenterait 80 % du loyer médian à Montréal et du loyer moyen à Verdun. Moyenne et médiane? La moyenne est calculée en additionnant toutes les données d'une distribution et en divisant ensuite cette somme par le nombre de données. La médiane, elle, correspond à la valeur que l'on retrouve au centre d'une distribution de chiffres. Un exemple. Dans le Grand Sud-Ouest, et particulièrement à Verdun, le logement social et le logement abordable ont fait les manchettes. L'arrondissement de Verdun a tenu une consultation publique le 19 août dernier, portant entre autres sur la construction d'un grand projet immobilier au 8 Place du Commerce à l'île des Sœurs. Le projet propose des logements abordables sur 10 % de sa superficie. Sébastien Laure rappelle que le prix moyen du loyer à l'île des Sœurs est élevé. Citation : Si on est sur l'aide sociale, on n'a pas les revenus pour se le payer, fort probablement. Fin de citation, dit-il. Dans le cadre du règlement pour une métropole mixte, le promoteur immobilier du 8 Place du Commerce versera une contribution financière à la ville pour que cette dernière puisse bâtir du logement social et abordable dans le futur. Le règlement exige que les promoteurs incluent une certaine quantité de logements sociaux, abordables et familiaux dans leurs projets immobiliers. S'ils ne le font pas, ils doivent verser une contribution. C'était « Logement social et logement abordable. Quelle est la différence? » Un texte de Jasper Bléau-Levaché, paru le 4 septembre 2025 dans le magazine Pivot.
Lift s'étend au Québec. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir. Présente à Montréal et à Québec depuis deux semaines, l'entreprise américaine Lift modifie le paysage du covoiturage privé. Quel succès aura ce nouveau joueur face à Uber, installé depuis plus d'une décennie au Québec, et à l'industrie du taxi encore ébranlée par la déréglementation survenue il y a 5 ans? Lyft est déjà présente dans plus de 600 villes aux États-Unis, et au fil des dernières années, elle s'est progressivement implantée au Canada, d'abord à Toronto et à Ottawa en 2017, puis à Vancouver en 2020 et à Calgary et à Edmonton 3 ans plus tard. Après Montréal et la ville de Québec, Lyft entend poursuivre son expansion au Québec, notamment à Laval, Longueuil, Gatineau et Sherbrooke. La concurrence est toujours bénéfique et offre plus de choix aux consommateurs, a fait valoir par courriel Mylène Tassy, directrice générale pour le Québec chez Lyft Urban Solutions. L'entreprise n'a cependant pas voulu dévoiler le nombre de chauffeurs recrutés jusqu'à maintenant. Uber fait d'ailleurs preuve de la même discrétion concernant le nombre de ses chauffeurs. L'élargissement des choix de transport au-delà de la voiture individuelle contribue à la croissance de l'ensemble du marché, ce qui profite aux usagers, aux conducteurs et aux collectivités locales, a prudemment commenté Uber au sujet de l'incursion de Lyft. Si Lyft a tant tardé à s'implanter au Québec, ce n'est pas uniquement en raison des questions réglementaires qui se sont finalement dissipées, mais possiblement pour d'autres considérations comme la taille des marchés à conquérir, avance Guillaume Lavoie, chargé d'enseignement à l'École nationale d'administration publique, ENAP, qui a aussi présidé, en 2018, le groupe de travail sur l'économie collaborative. Toronto était donc un premier choix logique, suggère-t-il. Et pour entrer au Québec, il y a des exigences linguistiques. Partir des États-Unis puis aller à Toronto, c'est moins d'étapes que de venir au Québec. Guerre des prix. Selon lui, l'arrivée de Lyft dans le paysage québécois du covoiturage est une bonne nouvelle. Les premiers bénéficiaires vont être les chauffeurs, avance-t-il. Et plus d'options qui ne sont pas l'auto-solo. C'est une extraordinaire nouvelle. Professeur agrégé à HEC Montréal et au département d'entrepreneuriat et innovation, Jean-François Ouellette convient aussi que les chauffeurs profiteront de l'arrivée de Lyft. Généralement, pendant une certaine période, les chauffeurs bénéficient de meilleurs tarifs de la part des plateformes. Par contre, la tarte va se couper en plus de pointes, ce qui fait en sorte que les chauffeurs vont peut-être faire moins de transport, souligne-t-il. Il rappelle qu'en revanche, dans certaines villes où Lyft et Uber se côtoient, les chauffeurs ont la possibilité de travailler avec les deux plateformes. Pour les consommateurs, l'arrivée d'un concurrent à Uber pourrait se traduire par une baisse des prix et une plus grande disponibilité de véhicules, souligne M. Ouellette. D'ailleurs, Lyft n'a pas manqué d'offrir à ses nouveaux clients des rabais pour leurs 5 premières courses. L'avantage de Lyft, indique-t-il, c'est que l'entreprise n'a pas eu à faire le débroussaillage auquel avait été confronté Uber en 2013. Rappelons qu'à son arrivée au Québec, Uber avait opéré dans l'illégalité, la réglementation étant alors hostile à son modèle d'affaires. En 2020, Québec a finalement légiféré afin d'encadrer le transport rémunéré à la suite d'une entente avec Uber dans le cadre d'un projet pilote d'un an. Des répercussions pour les taxis. L'incursion de Lyft sur le territoire québécois n'est pas de nature à réjouir les chauffeurs de taxi. Jean-François Ouellette estime toutefois qu'il y a une part d'inconnu quant aux répercussions de Lyft sur cette industrie. Les gens qui continuent d'utiliser le taxi, ce sont un peu des irréductibles Gaulois. L'arrivée de Lyft ne devrait pas forcément changer leurs habitudes, mais on est en terrain inconnu. Selon lui, l'effet ne sera pas aussi brutal qu'à l'arrivée d'Uber, bien qu'on puisse s'attendre à ce que Lyft gruge une part du marché du taxi, peut-être 10 ou 20% avance-t-il. Généralement, Lyft va plutôt gruger les parts de marché d'Uber et non pas celles du taxi traditionnel. L'industrie du taxi bénéficie tout de même de certains avantages, dont les postes d'attente sur le domaine public, ainsi que des marchés réservés tels que le transport adapté ou les taxibus, souligne Guillaume Lavoie. Un arrêt de taxi qui est en face de la porte du théâtre ou d'un hôpital, ça a une valeur. C'est comme avoir un stand de crème glacée à la sortie d'un stade. Il fait d'ailleurs remarquer que ces postes d'attente réservés aux taxis ne sont pas tarifés aux compagnies, ce qui lui apparaît très discutable. Même si l'industrie du taxi accuse toujours un retard technologique, sa survie n'est pas en danger à court terme, croit Jean-François Ouellette. Uber n'a pas eu raison des chauffeurs de taxi dans le monde. Il y en a beaucoup moins qu'avant dans les villes où ces joueurs sont présents, mais ce n'est pas mort et enterré. C'était Lift, 7 ans au Québec, un texte de Jeanne Corriveau paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir.
Un marché au-delà des préjugés à Oaxaca. Un texte d'Alexis Ouellette-Lapointe, journaliste indépendant. Dans l'atrium de la Bibliothèque centrale de la capitale, un marché accueille chaque samedi le public. S'il attire l'attention par ses couleurs et sa vitalité, une autre caractéristique le distingue. Il s'agit d'une initiative d'un regroupement autonome de personnes qui vivent avec un handicap, le collectif Creando Juntos. Avec le marché, le collectif parvient à générer une source de revenus pour ses membres. Également, il s'affirme comme un espace de revendication et de représentation d'une cause fondamentale. Artisanat, bijoux, textiles, vêtements de différentes régions, œuvres créées par des artistes de Oaxaca. À une table, de délicieux plats locaux. Avec une signature culturelle typique de Oaxaca, le marché se distingue par sa qualité et sa convivialité. Ce samedi d'avril, Montserrat Montero est très occupée en raison de l'afflux du public. « Nous nous faisons déjà connaître et nous avons plus de monde », dit avec enthousiasme la commerçante, qui offre au public de l'artisanat et des bijoux typiques de sa région d'origine, San Pedro Amuzgos. Montserrat est un exemple pour de nombreuses personnes à Oaxaca. Alors qu'elle vit avec un handicap visuel, elle est cofondatrice du collectif Creando Juntos. Diplômée en gestion d'entreprise, elle se distingue comme experte en braille et collabore comme traductrice avec différents organismes. Elle raconte que le marché a vu le jour grâce à une initiative qu'elle a prise avec ses collègues Pedro Miranda Gijón et Reinalda Andrés Carrasco, tous deux reconnus pour leurs initiatives à Oaxaca. Le handicap recouvre des réalités très diverses et comme nous travaillons avec divers groupes, nous avons fait appel à toute la communauté et la réponse a été très enthousiaste. Pedro sait comment faire bouger les choses et en moins de quelques mois, le projet a déjà pris forme. Espace essentiel. À une table du marché, Dr. Jenny Policarpo met à la vente des textiles avec son fils Christian Diego, qui vit avec l'autisme. Elle affirme que l'initiative a été accueillie comme un espace essentiel, car elle répond à des besoins vitaux pour cette communauté à Oaxaca. Ce sont les personnes handicapées elles-mêmes ou aidantes naturelles qui font le mieux bouger les choses à Oaxaca. Aujourd'hui, le mouvement du changement vient de la société civile. Elle souligne que défendre le droit de son fils à se développer pleinement et dans la dignité constitue pour elle un combat quotidien. En ce sens, elle explique que le marché représente pour elle et son fils une grande source de soutien et d'inspiration.
L'appendice. Vraiment inutile? Un texte de Morgane Petit, paru le 4 mai 2025 dans Science et Vie. Relégué par Darwin au rang des vestiges de l'évolution, l'appendice a longtemps été considéré comme inutile, voire dangereux en cas d'inflammation conduisant aux appendicites. Cependant, depuis, les études sur ce petit bout d'organe se sont multipliées et on comprend aujourd'hui que notre appendice a toujours un rôle à jouer, en particulier au niveau immunitaire. L'appendice est un petit bout d'organe sans importance, une structure anatomique vestige de l'évolution qui ne remplit plus sa fonction. C'est ainsi que Charles Darwin considérait l'appendice. Un témoignage de notre passé, de la même manière que les dents de sagesse ou le petit os du coccyx triangulaire. On avait une queue il y a bien longtemps. inutile, voire même dangereux, l'appendice. Le couper n'est donc pas gênant. Certes, il faut traiter l'appendicite, mais en réalité, ce petit bout d'intestin a toujours un rôle à jouer, en particulier pour notre immunité. Appendice. Qui es-tu? L'appendice iléo-sécal, oui, c'est son vrai nom, est une petite excroissance en forme de doigt du cécum, c'est-à-dire la première partie du côlon, notre gros intestin. Bien qu'elle se trouve en position intestinale, cette poche de tissu ne joue aucun rôle dans l'élimination des déchets de la digestion. Malgré sa petite taille et son apparente inutilité, il est en réalité apparu de nombreuses fois chez des mammifères au cours de l'évolution. De précédentes études ont ainsi montré que l'appendice apparaît pour la première fois chez les mammifères il y a au moins 80 millions d'années. En outre, cette structure anatomique a évolué au moins 16 fois de manière indépendante chez les mammifères. Des caractéristiques pour le moins étonnantes pour un petit bout d'organe jugé inutile. L'humain n'est donc pas le seul mammifère à posséder cet appendice. On le retrouve chez des animaux aussi différents que les opossums, les wombats, les lapins ou les grands singes, comme les orangs-outans. Mais alors, à quoi peut bien servir ce petit bout d'organe? Un rôle pour notre système immunitaire. Dès 2007, une première équipe de scientifiques, menée par William Parker, pressentait que l'appendice était bien plus qu'un simple vestige de l'évolution. En réalité, il s'agirait d'un réservoir à bactéries. Là, vous vous dites peut-être, à raison de plus de le couper. Mais non, car on parle plutôt de bonnes bactéries, nécessaires pour nos intestins, celles qui nous aident à digérer les aliments. Cette hypothèse de réservoir à bactéries a pu être validée aujourd'hui. Et les scientifiques ont continué leurs investigations. L'appendice jouerait aussi un rôle au niveau de l'immunité. Ainsi, une équipe de scientifiques de l'INSERM et du Muséum national d'histoire naturelle a remarqué que la présence de l'appendice était corrélée à l'allongement de la longévité. On estime la longévité des animaux par rapport à leur poids. Plus un animal est lourd, plus sa longévité sera longue. Ainsi, en comparant deux mammifères de même poids, un avec appendice et l'autre sans, les scientifiques ont observé que le mammifère présentant la petite poche iléo-sécale avait une durée de vie plus longue que celui qui n'en avait pas. Quel pourrait bien être le lien entre ce bout d'organe et la longévité? Tout serait lié au système immunitaire. Grâce à sa forme de sac, l'appendice favorise la constitution d'un sanctuaire bactérien sélectif. Il aide ainsi à la recolonisation rapide des espèces bactériennes en cas d'élimination de ces dernières par une maladie. Les animaux avec un appendice auraient donc un taux de mortalité moindre. En outre, cet organe présente une concentration importante en tissus lymphoïdes. Concrètement, il contient des cellules immunitaires, les lymphocytes, qui sont utiles pour la coordination de la réponse intestinale aux attaques de microbes pathogènes. Un appendice qui protégerait contre les diarrhées infectieuses. Dans ce rôle d'immunité, l'appendice serait particulièrement intéressant pour protéger contre les diarrhées infectieuses. Les primates, y compris les humains, sont particulièrement touchés par ces maladies. Elle constitue la seconde cause de mortalité chez l'enfant humain entre 1 mois et 5 ans. En outre, on observe un risque accru de survenue de ces diarrhées chez les patients n'ayant plus d'appendice, bien qu'on n'ait pas encore établi de lien direct. Les scientifiques ont donc voulu savoir si l'appendice pouvait effectivement protéger contre les diarrhées infectieuses. Pour cela, ils ont étudié les dossiers vétérinaires de plus de 1 200 primates d'espèces différentes. Certaines possèdent un appendice, d'autres non. Ils ont ainsi observé que les primates présentant un appendice avaient une fréquence d'apparition des diarrhées assez faible, 85 % de moins que ceux n'ayant pas d'appendice. En outre, les cas sévères sont beaucoup moins fréquents. L'appendice aurait donc effectivement un rôle protecteur contre les diarrhées infectieuses chez les primates. Cela pourrait être une des raisons au fait que cet organe ait été si souvent sélectionné par l'évolution. Un organe qui protège. Mais que dire de l'appendicite? Quand l'appendicite se déclenche. C'est bien beau tout cela. On n'arrête pas de dire que l'appendice serait utile, mais malgré tout, il peut aussi être dangereux. L'appendicite, si elle n'est pas traitée, est mortelle. Comment survient-elle? Il s'agit d'une inflammation brutale de l'appendice. Elle est causée par l'obstruction de l'organe par des résidus de matière fécale, un corps étranger, une parasitose intestinale ou une compression extérieure. Cette obstruction s'accompagne d'une multiplication de bactéries pathogènes. Des lésions inflammatoires s'étendent alors progressivement sur la paroi de l'appendice. Dans le cas d'une perforation de cette paroi, on a la survenue de péritonite, une forme grave de l'appendicite. Il y a plus de 10 millions de cas d'appendicite chaque année dans le monde. Le seul traitement possible est chirurgical. Il s'agit de l'ablation de l'appendice. Cette opération est très fréquente et reste l'une des chirurgies abdominales les plus pratiquées dans le monde. Bref, l'appendice, il est clairement pas cool. Une conclusion qui va un peu vite en besogne. Certes, quand un patient déclare une appendicite, il n'y a pas à tergiverser. Il faut intervenir chirurgicalement. Malgré tout, les scientifiques ont observé que les cas d'appendicite sont beaucoup moins fréquents que d'autres pathologies, comme les diarrhées infectieuses, contre lesquelles agirait l'appendice. Sa protection contrebalancerait donc très largement les risques liés aux appendicites. C'était l'appendice. Vraiment inutile? Un texte de Morgane Petit, paru le 4 mai 2025 dans Science et Vie.